Le journal Thomas Cluzel. Bonjour Thomas.
Bonjour Olivia, bonjour à toutes et à tous. Et nous nous rendrons dès le début de ce journal au Royaume-Uni, devenu ce matin le premier pays au monde à approuver l'utilisation massive d'un vaccin contre le Covid-19 disponible dès la semaine prochaine. De quoi insuffler de l'espoir à une population lassée des restrictions.
Toujours à l'étranger, direction Hong Kong.
Oui, après une mobilisation populaire sans précédent, le territoire semi-autonome fait l'objet d'une reprise en main de plus en plus musclée par le pouvoir central chinois. Ce matin, trois célèbres militants pro-démocratie ont été condamnés à des peines d'emprisonnement. Et puis, en Israël, 6 mois après leur union politique contre nature, les tensions ont fini par éclater au grand jour entre Benjamin Netanyahou et Benny Gantz, avec à la clé un vote préliminaire aujourd'hui pour dissoudre leur gouvernement de coalition.
En France, à présent, le gouvernement envisage une période d'isolement de 7 jours pour les Français rentrant du ski à l'étranger pendant les fêtes.
C'est ce qu'a laissé entendre ce matin Jean Castex, suscitant des réactions grinçantes chez les élus des stations de ski. Et puis le Premier ministre a par ailleurs déclaré qu'il n'y aurait vraisemblablement pas de coup de pouce au SMIC le 1er janvier prochain. Enfin, un rapport sur les travailleurs des plateformes numériques doit être remis aujourd'hui au gouvernement. Invité de la rédaction aujourd'hui, Indel Idrissi, cofondatrice du néo-syndicat indépendant.co. Et puis à 12h55, Olivia, ce sera la grande table des idées.
Avec un portrait de la société française du 21e siècle, à travers ses mots, à travers ses likes, ses hashtags, ses manspreading, ses selfies ou encore sa distanciation sociale, ce sera avec notre invitée, la linguiste Julie Neveu.
Un vaccin sera disponible la semaine prochaine dans un monde où la pandémie a fait près d'1,5 million de morts. C'est peu dire que cette déclaration était attendue depuis des mois et elle est venue ce matin du Royaume-Uni. Plus exactement, le gouvernement britannique a accepté la recommandation de l'Agence indépendante de réglementation des médicaments et des produits de santé d'approuver l'utilisation du vaccin mis au point par l'Allemand BioNTech et le géant américain Pfizer. Alors ce feu vert des autorités britanniques fait suite en réalité à des mois d'essais cliniques. Il intervient par ailleurs le jour même de la sortie de l'Angleterre de 4 semaines de confinement pour retourner à une approche régionale que le Premier ministre Boris Johnson espère pouvoir lever au printemps prochain grâce à l'action conjuguée donc du dépistage de masse et des vaccins. Quoi qu'il en soit, et après cette première autorisation mondiale, les premières doses devraient arriver dans les tout prochains jours au Royaume-Uni qui en a commandé 40 millions. C'est une correspondance à Londres signée Richard Place.
C'est une véritable cérémonie de remise de prix. C'est peu de dire que le Royaume-Uni se glorifie d'être le premier à donner cette autorisation. Depuis ce matin, le ministre de la Santé multiplie les déclarations, sourire radieux et célébration pour Matt Hancock.
It's partly down to the brilliant work of the team.
C'est en partie dû au travail remarquable des équipes ministérielles et de la task force qui travaillent sur le vaccin pour acheter ces millions de doses. C'est aussi dû à l'Agence nationale de santé qui a été brillante.
To the MHRA being a brilliant regulator. I mean, we don't often praise.
On ne salue pas souvent le travail des régulateurs. Grâce à eux, les gens auront accès au vaccin à partir de la semaine prochaine.
10 millions de doses ont été commandées. 800 000 seront livrées dans les prochains jours, suffisamment vite pour commencer la campagne de vaccination dans les premiers jours de la semaine prochaine. La plus grande partie de la livraison devrait néanmoins se faire autour du 1er janvier. 10 millions, c'est 5 millions de vaccinés puisqu'il faut 2 doses à chaque fois. Les personnes ciblées seront les plus fragiles. Ce sont donc les pensionnaires des maisons de retraite et les personnels de santé qui vont être sollicités en premier. Le vaccin ne sera pas obligatoire.
Une confirmation davantage qu'une révélation. Les autorités de Pékin ont-elles minimisé l'épidémie de Covid-19 à ses débuts? C'est ce que laissent entendre des documents remis à la chaîne de télévision américaine CNN par un lanceur d'alerte disant travailler au sein du système de santé chinois. Documents grâce auxquels on apprend qu'une épidémie virale avait frappé la province du Hubei dès le début du mois de décembre 2019. La purge méthodique des voix dissidentes se poursuit à Hong Kong sous le regard satisfait de la Chine continentale. Ce matin, le jeune militant pro-démocratie Joshua Wong, l'une des figures les plus connues de la contestation, a été condamné à 13 mois et demi de prison pour son implication dans un rassemblement non autorisé. C'était en juin 2019. 2 autres activistes ont également été condamnés à respectivement 10 mois et 7 mois derrière les barreaux, des peines certes attendues dans le territoire prétendument autonome, mais plus lourdes en revanche que ce à quoi s'attendaient les jeunes militants. Les précisions sur place de notre correspondante Florence Dechangy.
13 mois et demi de prison ferme pour Joshua Wong, 24 ans, 10 mois pour Agnès Chow, 22 ans, et 7 mois pour Ivan Lam, 26 ans. On est dans la fourchette dure des peines attendues et même extrêmes dans le cas de Joshua Wong. Selon divers avocats, une peine normale pour incitation à assemblée illégale, laquelle est d'ailleurs restée non violente, se situerait plutôt entre 6 et 12 semaines de prison. C'est bouleversant de voir ces verdicts d'une sévérité absurde et qui remettent en cause l'indépendance de la justice, a réagi Nathan Lowe, ami et frère d'armes du trio, qui lui a pu s'exiler en Angleterre cet été car il avait encore son passeport. Certes, la magistrate qui a décidé du verdict a la réputation d'être sévère dans son jugement. Elle a d'ailleurs insisté sur le rôle de leader de Joshua Wong, ce qui a, selon elle, alourdi sa responsabilité. Les faits reprochés remontent au 21 juin 2019, quand le QG de la police a été assiégé pendant plus de 15 heures à l'appel de Joshua Wong, mais l'opération s'est terminée vers 3 heures du matin sans éruption de violence. En quittant le tribunal, Joshua Wong, qui en est à sa 4e condamnation, a crié à l'attention de ses partisans « Je sais que le chemin devant nous est dur, mais je vais tenir bon ». Agnès Chow, quant à elle, fraîchement diplômée avec mention, va avoir 23 ans. Demain, elle n'avait encore jamais écopé d'une peine de prison ferme.
Après 4 semaines de conflit armé au Tigré, si les communications ont été partiellement rétablies dans cette région en conflit du nord de l'Éthiopie, les informations sur la province dissidente restent extrêmement parcellaires. Impossible en particulier de vérifier les conditions actuelles dans les camps de réfugiés, très probablement à court de biens alimentaires, ce qui rend plus réelle désormais la menace de faim et de malnutrition. On ne compte plus les jours présentés comme décisifs en Israël. Aujourd'hui, le Parlement doit se prononcer sur la motion de censure déposée par l'opposition pour faire pression sur le gouvernement lui-même, fruit d'une guerre sans fin entre le Premier ministre Benjamin Netanyahou et son partenaire adversaire, actuel ministre de la Défense Benny Gantz, où quand une possible dissolution laisse planer le spectre de nouvelles élections nationales, les 4e en moins de 2 ans. Frédéric Mettezo, bonjour.
Bonjour à tous.
Vous êtes en direct de Jérusalem. Alors en réalité, si la motion de censure venait à être adoptée aujourd'hui en lecture préliminaire, le chemin jusqu'aux urnes reste lui encore long avec 3 lectures en commission et 3 autres encore en séance plénière. Mais déjà donc plusieurs stratégies se dessinent, Frédéric. D'un côté, Benny Gantz, lequel a annoncé hier soir son intention de voter en faveur de cette motion qui exhorte le Premier ministre à faire adopter le budget pour ce qui reste de 2020 puis pour 2021. Puis de l'autre, Benjamin Netanyahou, lui qui joue une fois de plus sa survie politique face au procès qui le vise pour corruption et abus de confiance.
Oui, c'est ça. Benny Gantz insiste pour adopter un budget qui court jusqu'à la fin de 2021, car cela, tout simplement, fait partie de l'accord de coalition, accord qui prévoit aussi que Netanyahou, vous en souvenez, cède le fauteuil de Premier ministre à Gantz dans 11 mois. Mais voilà, la droite veut torpiller cet accord en bloquant la question du budget. Pour Netanyahou, s'il y a de nouvelles élections, eh bien, il conserve de très bonnes chances. Et s'il l'emporte, il n'aura plus à faire la rotation avec Gantz, et surtout, Netanyahou essaiera de nouveau de faire adopter une loi d'immunité judiciaire pour lui. Mais dans tous les cas, Thomas, chacun rejette déjà sur l'autre la responsabilité d'aller aux élections. Ce serait en février ou en mars, sans savoir quelle sera la situation sanitaire à ce moment-là.
Et quel que soit le résultat du vote à la Knesset cet après-midi, une chose est sûre, Frédéric, la crise politique est d'ores et déjà extrêmement aiguë.
Les ministres de droite, du centre et de gauche ne cessent de se chamailler en public. C'est d'une violence verbale assez difficile à imaginer en France. Sachez que des nominations importantes sont gelées, comme celle du directeur général de la police ou du procureur d'État. Il n'y a plus de conseil des ministres depuis des mois. Netanyahou signe des traités de paix sans prévenir ses ministres de la Défense et des Affaires étrangères. Il n'y a plus de budget non plus. Le dernier budget a été voté fin 2018. Et depuis, il est reconduit automatiquement de mois en mois, sans pouvoir être adapté à la crise sanitaire, devenue crise économique et sociale.
Merci Frédéric Mettezo en direct de Jérusalem. Le ministre américain de la Justice, William Barr, a déclaré hier ne pas avoir constaté de fraude suffisante pour invalider la victoire de Joe Biden à la présidentielle. Un désaveu d'autant plus remarquable pour Donald Trump qu'il émane de l'un de ses plus fervents alliés, cet ultra-conservateur et quoi qu'il en soit le premier membre de la garde rapprochée du président sortant à prendre ainsi publiquement ses distances avec les allégations d'élections truquées. Quant au président républicain du Sénat, Mitch McConnell, il a lui laissé entendre qu'il était prêt à passer à autre chose en évoquant cette fois-ci les tractations au Congrès sur une nouvelle mouture du plan d'aide à l'économie. Un nouveau round de discussion pourrait avoir lieu en début d'année prochaine en fonction de ce que la nouvelle administration veut faire, a-t-il déclaré.
France Culture, 12h40, c'est le journal de Thomas Cluzel.
C'était le temps de l'hédonisme, celui de la convivialité sur les télésièges, comme dans les restaurants embués de l'après-ski, comme un lointain souvenir du monde d'avant. La semaine dernière, face aux caprices d'un virus toujours insaisissable, Emmanuel Macron avait douché tous les espoirs des amoureux de la glisse. Une ouverture des stations ne sera pas envisageable avant janvier. Finalement, et 48 heures plus tard à peine, le Premier ministre Jean Castex optait lui pour un compromis. Les stations pourront bien ouvrir à Noël. En revanche, les remontées mécaniques resteront fermées, de même que les équipements collectifs, bars et restaurants. Alors aussitôt, le président de Domaine Skiable de France était dit atterré par cette proposition, ubuesque, avait même renchéré pour sa part la présidente de l'Association des élus de montagne. Et ce matin, Jean Castex, visiblement agacé que la question lui revienne sans cesse, a de nouveau tenté de se justifier. « J'essaie de limiter les flux importants et les rassemblements importants », a-t-il déclaré. Problème, dès lors que le ski alpin sera donc interdit dans l'Hexagone, comment empêcher que des Français se rendent au sport d'hiver dans des stations des pays limitrophes ? Réponse du Premier ministre.
C'est-à-dire qu'on fera des contrôles aléatoires à la frontière, et que le préfet pourra ordonner la mise en quarantaine 7 jours.
C'est-à-dire que je suis français, je vais aller skier en Suisse, voilà. Je tombe sur un contrôle, il m'arrive quoi ?
Eh bien, il vous arrive que vous serez placé et que vous subirez les tests en isolement de 7 jours. Moi, je cherche à protéger mes concitoyens, c'est pas que je cherche, c'est mon devoir. Que d'autres pays n'ont pas la même conception, c'est leur droit, mais je vais continuer à protéger mes concitoyens en les empêchant d'aller se contaminer et je rétablirai un principe d'équité vis-à-vis des gestionnaires des stations de ski françaises.
Voilà, Jean Castex, invité ce matin de nos confrères de RMC. Alors évidemment, la volonté du gouvernement d'empêcher les Français d'aller skier à l'étranger pose d'ores et déjà une question, celle de son applicabilité. Comment va-t-on les repérer ? S'agira-t-il de contrôler tous ceux qui auront des skis sur le toit de leur voiture ? Et que faire pour tous ceux qui choisiront de louer du matériel sur place ? Quoi qu'il en soit, Rosalie Lafarge, les élus des stations de montagne, eux, n'ont pas tardé à réagir.
Avec ces annonces, l'exécutif espère dissuader les Français d'avoir ne serait-ce que l'idée d'aller skier ailleurs. Et c'est mieux que rien pour Jean-Luc Bock, le maire d'hiver droite de La Plagne-Tarentaise, également président de l'Association nationale des maires de stations de montagne.
Ça risque d'être très compliqué à mettre en place, voire impossible à mettre en œuvre. Mais en tout cas, l'effet d'annonce est là et c'est, de mon point de vue, quelque chose de bien, en tout cas, qui n'incitera pas les Français à partir skier dans d'autres stations que dans les nôtres.
Sur le papier peut-être, mais dans les faits, l'idée interroge en tout cas son collègue maire de Courchevel en Savoie, Jean-Yves Pachaud.
Comment va-t-on faire pour interdire certaines personnes qui, à 2 heures de voiture d'ici, pourront aller skier dans une station suisse, par exemple. Je vois pas comment c'est possible. On a l'impression qu'ils ne nous entendent pas. Ils nous disent, mais ne vous inquiétez pas, on va vous aider. Mais nous, des aides, c'est pas ce qu'il nous faut.
Ce qu'ils aimeraient, ces élus de montagne, c'est pouvoir ouvrir le plus vite possible les stations. Pour Pierre Voller, le maire des Ors, dans les Hautes-Alpes, l'épisode n'a que trop duré et quelle qu'en soit l'issue, il sera difficile à oublier.
Nous, on n'attend pas de l'argent, on attend simplement du bon sens par rapport à nos gouvernants qui sont en train d'aggraver la fracture avec les territoires ruraux et particulièrement avec les territoires de montagne. Vous savez, dans les montagnes, nous sommes des travailleurs, nous sommes disciplinés, mais nous avons une bonne mémoire.
Des professionnels de la montagne ont prévu de se mobiliser demain matin dans plusieurs stations à 8 jours d'une nouvelle réunion programmée avec le gouvernement pour discuter encore une fois de la date d'ouverture des stations françaises.
Même s'il ne s'est pas montré catégorique, Jean Castex n'a pas non plus laissé beaucoup d'espoir à tous ceux qui espéraient une revalorisation du salaire minimum au 1er janvier prochain. Il n'y aura vraisemblablement pas de coup de pouce au SMIC, a déclaré le Premier ministre, ou qu'on dans un contexte de récession exceptionnelle, rien ne justifierait a priori d'améliorer le pouvoir d'achat. Catherine Pétillon, bonjour.
Bonjour.
Le gouvernement doit officialiser en réalité sa décision dans le courant du mois, mais son orientation, Catherine, semble d'ores et déjà assez claire.
Oui, le gouvernement devrait s'en tenir à l'avis du comité d'experts, pas de coup de pouce. Alors il n'y a pas de grande surprise. D'abord sur le rapport remis hier, les économistes qui composent ce comité défendent la même position chaque année. Selon selon eux, le salaire minimum n'est pas le bon outil pour lutter contre la pauvreté. Et là, ils estiment en outre que l'augmenter, ce serait demander un effort trop lourd aux entreprises vu le contexte économique. Quant à l'exécutif, il garde la même ligne depuis le début du quinquennat. Même au plus fort de la crise des gilets jaunes, il n'avait pas opté pour la hausse du SMIC et avait choisi de renforcer la prime d'activité. Alors la crise sanitaire et ses effets économiques auraient pu changer la donne. D'abord, la prime d'activité est une aide qui accompagne la croissance puisqu'elle n'amortit la crise. Moins d'activité, ça veut dire un dispositif qui aide moins. Ensuite, les personnes au SMIC, ce sont souvent des travailleurs et plus encore des travailleuses, des secteurs de l'aide à la personne, de la propreté, de la restauration ou encore du commerce. Autant de gens qui ont été particulièrement exposés au Covid et n'ont pas arrêté de travailler pendant le premier confinement. Le rapport souligne aussi que les personnes au SMIC sont davantage exposées au chômage car elles sont plus souvent en intérim ou en CDD. Alors en janvier, il y aura quand même une augmentation automatique du SMIC. Elle est calculée par un système un peu complexe. Pour résumer, il repose sur l'inflation. Ça devrait donc tourner autour de 1%, soit une dizaine d'euros par mois. Le SMIC, c'est environ 1200 euros net par mois. Le gouvernement dit néanmoins vouloir agir pour mieux payer les métiers les moins bien reconnus. Il a d'ailleurs lancé une consultation sur le sujet, mais elle devrait durer plusieurs mois.
Merci Catherine Pétillon. Comment mieux réguler les pratiques sociales, mais aussi la sécurisation juridique entre les plateformes de type VTC ou de livraison et leurs travailleurs? Un rapport doit être remis aujourd'hui au Premier ministre et pour en parler avec nous, invité de la rédaction aujourd'hui, Indel Idrissi, cofondatrice du néo-syndicat indépendant.co. Bonjour madame.
Bonjour.
Vous avez vous-même été auditionné donc pour aider à la rédaction de ce rapport du Conseil national du numérique sur les travailleurs des plateformes. L'une des pistes à l'étude, c'était la création d'un nouveau statut. Elle n'a finalement pas été retenue. Faut-il s'en inquiéter?
Non, en réalité, ça c'est une bonne nouvelle. Et la plupart des observateurs qui ont étudié ces situations-là disent que le tiers statut aurait été de toute façon une complexification du droit qui n'aurait rien résolu. Donc c'est vraiment une bonne chose que la mission Froin ait finalement rejeté ce tiers statut.
La jurisprudence aujourd'hui commence à donner raison aux travailleurs qui demandent à être requalifiés comme salariés. Ce que le rapport ne préconise pas, est-ce que selon vous c'est pourtant l'une des pistes qui pourrait être suivie?
Effectivement, le rapport ne recommande pas la requalification et ça c'est assez, c'est une prise de position qui est assez particulière parce que dans certains cas, les indices de requalification sont tellement importants qu'on aurait pu l'envisager et c'est pour ça qu'apparemment ils ont préféré prendre une solution qui soit le portage salarial et les coopératives.
Pour quelles raisons?
Alors, le système de coopérative, c'est un système qu'on avait examiné dans le cadre du rapport du Conseil national du numérique. Pourquoi on l'avait examiné? Parce que c'est un système qui permet d'être salarié d'une organisation tierce, qui n'est pas la plateforme, et qui permet donc de bénéficier des avantages du salariat. Le problème de ce système, c'est que les cotisations sont totalement à la charge du salarié qui est porté au sein de la coopérative et il bénéficie certes des protections du salariat, mais ces cotisations vont doubler, donc ça va lui coûter extrêmement cher. Par contre, la plateforme, elle est protégée du risque de requalification.
L'une des questions est effectivement de savoir qui paiera finalement ce service. Est-ce que ça retomberait sur les travailleurs eux-mêmes, ce qui du coup n'améliorerait pas leurs rémunérations qui sont aujourd'hui déjà extrêmement faibles?
Voilà, c'est exactement ça le nœud du problème. Le rapport, en fait, esquisse une possibilité qui est que les plateformes diminuent leur commission de 5% pour pouvoir financer les frais du portage. Malheureusement, le portage, ça coûte beaucoup plus cher que ça, puisque un travailleur devra doubler ses cotisations. Donc, ces fameux 5% seraient a priori très insuffisants pour financer ça.
Quelles pourraient être les suites de ce rapport ?
Alors, il s'agit d'un rapport qui est remis au Premier ministre dans le cadre des ordonnances de la loi LOM. Et donc maintenant, ça va être au Premier ministre, avec le ministère du Travail, de décider concrètement comment ils vont transformer ça dans les ordonnances de la loi LOM. Est-ce qu'ils vont s'en tenir simplement au dialogue social, qui sera pourtant qui sera déjà une grande avancée, ou est-ce qu'ils vont également intervenir sur ces questions de statut?
Merci Inde El Idrissi, cofondatrice, je le rappelle, du néo-syndicat indépendant.co, d'avoir répondu à notre invitation. Suspendu depuis près d'un mois à cause de la crise sanitaire, le procès des attentats de janvier 2015 a repris ce matin à la Cour d'assises spéciale de Paris avec la suite des plaidoiries des parties civiles en présence notamment du principal accusé jugé pour complicité de crimes terroristes, Ali Riza Paulin, celui qui avait été diagnostiqué positif au Covid-19, c'était fin octobre, a pris place en dernier dans le box vitré aux côtés de ses co-accusés et dès la reprise de l'audience, il a longuement été question de son état de santé. Compte rendu signé Florence Turm.
Et les regards se sont d'abord tournés vers Ali Riza Polat, barbe fournie et très tirée sous son masque, qui tousse et crache dans une bassine posée à terre. Les accusés qui partagent son box se sont massés loin de lui, à l'autre bout du banc. Ali Riza Polat n'est plus positif au Covid depuis le 17 novembre et le médecin expert estime qu'il est en état de comparaître malgré des vomissements persistants. Il refuse tout traitement, demande à être conduit à l'hôpital. L'avocat des parties civiles dénonce une simulation. Pas question de laisser le cours de ce procès entre les mains de Monsieur Polat, enchérit l'avocat général. Et les plaidoiries interrompues reprennent. Les avocats se succèdent. Celui de l'État, victime, bien loin derrière la souffrance des blessés et des familles, expose Benoît Chabert. Mais des symboles ont été visés. La liberté d'expression martyrisée, torturée. Celui de la famille Merabet, le policier abattu par les frères Kouachi dans leur fuite. Sa mère dort encore avec les vêtements de son fils. Sa chambre est devenue un mausolée, plaide l'avocat, la voix étouffé par son masque, et il lance un appel aux médias qu'ils cessent de diffuser cette vidéo où l'on voit les terroristes achever leurs victimes. Puis l'avocate de Michel Catalano, ce héros, lance Amélie Trippé. Elle représente le chef d'entreprise pris en otage par les frères Kouachi à Dammartin-en-Gouël. Il s'en est sorti vivant et tous ceux qui l'a protégé s'en sont sortis vivants. Mais pendant ces 90 longues minutes, il a cru mourir à 3 reprises et ses nuits sont encore hantées par le bruit des armes. Dans son box, Ali Riza Polat s'agite, se lève, demande à sortir. Je sais même pas ce que je fais là à écouter vos salades. Le président prévient, si vous intervenez à nouveau pendant qu'un avocat plaide, je vous expulse. À la barre, maître Antoine Cazubolo-Ferro reprend, nous n'attendons plus qu'une chose, que vous condamniez sans faiblesse ceux qui doivent l'être, car l'état de droit n'est pas l'état de faiblesse.
Florence Turm au tribunal de Paris avec Julien Girard pour les moyens techniques. Au lendemain de rugueux débats procéduraux, le tribunal correctionnel de Paris a commencé hier à examiner le fond de l'affaire dite des écoutes qui vaut à Nicolas Sarkozy un procès pour corruption et trafic d'influence, en l'occurrence l'utilisation par l'ancien chef de l'État d'un téléphone portable acheté au nom de Paul Bismuth avait pour but de contourner les écoutes judiciaires de ses lignes officielles dans le cadre des enquêtes menées par la justice, notamment sur les soupçons de financement libyen de sa campagne victorieuse de 2007. Et toute la question est désormais de savoir si Nicolas Sarkozy a tenté ou non de corrompre un ex-haut magistrat alors en poste à la Cour de cassation afin d'obtenir des informations couvertes par le secret. De son côté, l'ancien ministre Claude Guéant est arrivé ce matin au tribunal judiciaire de Paris pour être à nouveau entendu sur ce possible financement libyen de la campagne présidentielle de Nicolas Sarkozy. Dans cette affaire, l'ancien secrétaire général de l'Élysée a été mis en examen une première fois en 2015 pour blanchiment de fraude fiscale en bande organisée. Et puis en 2018, les juges avaient encore aggravé les mises en examen du haut fonctionnaire, le soupçonnant d'être impliqué dans un pacte de corruption entre le régime libyen d'un côté et l'ancien président de l'autre. Autrefois ennemis au sein des instances du Front National, Marion Maréchal et Florian Philippot se retrouvent aujourd'hui à Lyon, plus exactement l'ex-député du Vaucluse et nièce de Marine Le Pen a convié l'ancien vice-président du parti à la flamme à venir présenter son dernier ouvrage au sein de l'école de sciences politiques qu'elle a fondée. Alors on sait qu'ils ont désormais au moins un point commun après s'être rendu indésirable dans les rangs du Rassemblement National. Pour autant, comment interpréter ces retrouvailles inattendues? Signe de réconciliation ou nouvel acte de défiance? Élément de réponse avec Sarah Ders.
Marion Maréchal accueillera un invité politique singulier. Elle ne le connaît que trop bien pour l'avoir, 5 ans durant, combattu au sein des instances du Front National, jusqu'à la rupture totale autour notamment de la question de l'IVG. C'est en réalité un règlement de compte politique de fond qui se joue entre les figures de proue de l'aile identitaire et l'aile souverainiste et sociale du FN. 5 ans après, le désormais président du mouvement Les Patriotes présentera devant les étudiants de l'école fondée et dirigée par la nièce de Marine Le Pen son dernier ouvrage, Covid-19, l'oligarchie démasquée. Florian Philippot travaille à rassembler les souverainistes, mais il l'assure, cette conférence n'est pas un accord électoral contre le Rassemblement National qu'il juge extrêmement mou et en retrait face à la crise sanitaire.
Cette conférence n'est pas un accord accord électoral, loin de là. Ce n'est pas un meeting, c'est une conférence sur un livre. Et évidemment que je peux discuter avec Marion Maréchal, comme avec beaucoup de monde, surtout en période de crise. On ne doit pas ressasser ce qui s'est passé il y a 5 ans. Il serait fou de rester dans sa tour d'ivoire ou de se construire des murs imaginaires au moment où le pays, notre pays, est confronté à une crise systémique multidimensionnelle extrêmement importante. Ça n'est pas un événement électoral, loin de là.
Ce n'est pas un accord électoral, mais on peut tout de même parler de retrouvailles entre deux ex-têtes d'affiche devenues indésirables au Rassemblement national.
On termine avec un mot du temps pour cet après-midi. Le plus souvent couvert et parfois pluvieux, seul le pourtour en Méditerranée bénéficiera de belles éclaircies. Quant aux températures, elles afficheront entre 6 et 15 degrés. C'est la fin de ce journal. Il était réalisé par Nicolas Paumet. Et à 18h, vous avez rendez-vous avec Stanislas Vazak pour le prochain journal de la rédaction.